Dans Matthieu chapitre 24, on va juste lire les versets d'introduction, les trois premiers versets, parce que ça va être beaucoup plus une introduction au chapitre, au sujet, des remarques bien importantes sur ce chapitre bien important de la parole de Dieu. Et je dirais, des fois mal compris, c'est le mot controversé, mais il y a beaucoup d'interprétations différentes de Matthieu 24 en particulier. Mais toutes choses ont été écrites pour notre édification, et donc on va regarder ensemble ce que le Seigneur veut nous enseigner avec ça. Et donc on va juste lire les versets 1 à 3. Matthieu 24, comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions, mais il leur dit: voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question: dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Méchante grosse question, là. Puis une méchante grosse réponse aussi, là, mais... Ces deux versets, surtout les deux derniers, là, le premier c'est plus un peu contextuel, mais ça montre clairement quelque chose qu'il faut comprendre avec la littérature prophétique de la Bible. C'est que Jésus ici, comme les prophètes de l'Ancien Testament, n'était pas d'abord concerné sur le fait de simplement prédire le futur. Des fois on pense à prophétie, prédiction du futur. Non, regardez le ministère des prophètes, puis regardez le ministère prophétique de Christ. L'emphase est beaucoup sur avertir dans le présent. Mm-hmm. Oui, il y a toute l'idée du futur. Si tu ne te repens pas là, il va y avoir les conséquences dans le futur. Mais l'emphase est sur le présent. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ouais. Comprenez-vous? Puis c'est quoi que les prophètes faisaient? Ils disaient: repentez-vous là, ainsi parle l'Éternel, sinon il va arriver ça, puis il va arriver ça. Donc, la prédiction du futur est... La conséquence et le fruit de cet avertissement pour le présent et qui exige la repentance. Et Pierre reflète ça un peu. Il manque une feuille. Je sais que j'ai mis ma feuille de verset. Dave, t'es-tu parti avec ma feuille de verset? On accuse toujours quelqu'un quand on ne sait pas quoi faire. Non, mais sérieux, j'ai ma feuille avec mes versets.
Non, c'est juste moi qui ai le droit de la faire.
Ouais, c'est ça. Ah, Etty! C'est sûrement de la faute à Dave.
Rien dans le milieu.
Ouais, c'est ça.
Comme dollar, Dave.
Non, en fait, c'est probablement moi au début, là, en tout cas. Dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 12, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Donc, Pierre a écrit son livre de 2 Pierre pour avertir par rapport aux faux prophètes et tout ça. Donc, en tant que prophète, Pierre prophétisait pour le présent. On a vu ce matin aussi même toute la prophétie de Jérémie qui parlait dans le contexte du roi Josias et tout ça. Oui, il y a eu des avertissements par rapport à ce qu'elle est venue. On sait, c'est la déportation babylonienne qui est venue pas très longtemps après. Mais c'était quoi qu'on a vu ce matin? Le gros de ce que Jérémie avait à dire: vous avez des fausses espérances, c'est avec fausseté, vous avez des espérances trompeuses, c'est avec fausseté que vous parlez au nom de l'Éternel. Donc c'est ça ici, l'emphase des prophètes, et Jésus ici n'y fait pas, n'est pas différent, parce que toujours et encore, on se rappelle que dans Matthieu, Jésus est présenté comme le roi légitime d'Israël, le grand roi qui vient établir son royaume. Et donc, il parle d'un point de vue autoritaire. Et c'est en continuité, ça va, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous rafraîchis la mémoire, à partir du chapitre 12 spécialement, le Saint-Esprit, là, dans Matthieu, a mis l'accent beaucoup sur l'autorité de Christ, parce qu'à partir du chapitre 12, il m'a parlé du sabbat. Ça, c'est un méchant gros point de contention à l'époque. Puis là, tout ce qui découle après, c'est tout en rapport, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais beaucoup, j'ai ramené toute la question de l'autorité de Christ à partir du chapitre 12, parce que c'est comme ça que la séquence des événements est amenée par le Saint-Esprit dans Matthieu. Matthieu sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et donc, ici, Jésus affirme, proclame son autorité, oui, en parlant des choses d'avenir, mais il faut voir qu'il proclame d'abord son autorité en tant que fils de Dieu, qui dit ces choses comme étant certaines. Il faut comprendre que, oui, il y a l'aspect de prédire le futur, mais c'est surtout un appel solennel à la vigilance spirituelle. Dans le contexte immédiat, puis même plus large, des chapitres 25 et 26, ça revient beaucoup, la notion de vigilance, de veiller. Puis tu sais, les trois paraboles qui sont données dans le chapitre 5, c'est toute l'idée, c'est des appels à la vigilance. Ne soyez pas endormis, soyez vigilants. Fait que ça, c'est une première chose, mais aussi, il faut voir, puis vous rappelez-vous, à un moment donné, ça fait-tu deux, trois mois, j'ai prêché un message dans Daniel, puis je disais que Daniel, souvent, on voit juste quasiment le côté prophétique de Daniel, alors qu'il y a un côté apologétique très important. Daniel défend le vrai Dieu qui est différent de tous les païens, de tous les dieux païens, puis tout ça. Nous, on voit, ah, il prédit le futur, oui, il y a ça beaucoup dans Daniel, là. Mais tu sais, c'est le Dieu qui pourvoit à ceux qui se confient en lui avec la diète du chapitre 1. C'est Dieu qui est au milieu de l'épreuve de la fournaise ardente avec ceux qui se confient en lui. C'est le Dieu qui est avec ceux qui, n'écoutant pas le décret qui avait été annoncé pour prier d'autres que le seul vrai Dieu qui est avec eux dans la fosse au lion. Donc, c'est apologétique. Ça défend qui est le vrai Dieu, qu'il n'y en a pas d'autre comme lui. Mm-hmm. Et il y a ça aussi dans Matthieu 24. C'est apologétique. C'est-à-dire que ça défend l'autorité du Dieu vivant. Jésus-Christ annonce l'avenir avec autorité comme étant celui qui a toute autorité puis qui peut parler de ces choses comme étant certaines et comme étant exactement ce que Dieu dit et ce qui va arriver. Et Dieu dit ça, il parle avec autorité en matière sociale, politique, prophétique, de façon claire et établie. Autrement dit, c'est comme dans Ésaïe, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, je ne donnerai pas ma gloire à aucun autre, ni mon honneur aux idoles. » Donc, il y a un côté clairement apologétique à ce qu'on va considérer ensemble dans le chapitre 24 de Matthieu. Puis là, la fameuse question du chapitre 3, ça l'ouvre la porte à un discours prophétique, c'est sûr, parce que je lui ai dit, méchante question, il dit, « Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » L'avènement et la fin du monde. Ces deux thèmes sont abordés à travers la réponse de Jésus dans le chapitre 24. Et je crois que d'emblée, on peut voir que... Je crois que la réponse de Jésus... Puis là, bon, tu sais, on s'entend, là, les impressions que je vais donner, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui va être d'accord. OK, mais moi, je vais vous donner ma conviction, puis je pense que c'est la conviction de la majorité de l'Église. En tout cas, quand on a fait la confession de foi, puis tout ça, qu'on a tout regardé ça ensemble. Mais je crois que cet avènement et la fin du monde, ce n'est pas encore accompli. Ça ne s'est pas accompli en 70 après Jésus-Christ. De toute évidence, Jésus n'est pas revenu. La fin du monde n'est pas arrivée. Ceci dit, je crois que comme beaucoup d'autres prophéties de l'Ancien Testament, et je vais vous donner des exemples, je crois que c'est une prophétie télescopique. Où est-ce qu'il y a un accomplissement partiel, puis plus loin, un accomplissement plus complet, comme Ésaïe a eu des enfants, la Vierge sera enceinte. Est-ce que ça a fini avec Ésaïe? Non, il y avait quelque chose pour le temps d'Ésaïe. Mais on sait que ça prophétise par rapport à la naissance de Jésus. Même chose dans Ésaïe 61, quand Jésus dit « L'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint pour proclamer la liberté » puis tout ça. Puis Jésus arrête une virgule. Puis on est encore à virgule depuis 2000 ans. Parce que ça parle de l'année de grâce du Seigneur, pour ça, ça parle de l'année de la vengeance. Puis ça, c'est, on n'est pas encore là. Voyez-vous, une même prophétie a un accomplissement comme ça, graduel dans le temps. Même la nouvelle alliance, elle est accomplie dans le sang de Christ, il l'a accomplie à la loi, mais toutes les ramifications de cette alliance pour la nation d'Israël et tout ça, à la lumière aussi de Romains 11, 25 à 29, on n'a pas encore tous les accomplissements. Enfin, je tiens à spécifier que mon interprétation des Écritures, puis là vous l'avez peut-être vu déjà avec ce que je viens de dire, elle est littérale et dispensationaliste. je crois à l'interprétation littérale de l'Écriture, à moins que le sens clairement... Tu sais, je crois pas que quand ça dit les yeux de l'Éternel font autour de la terre, qu'il y a des gros yeux qui roulent autour de la terre. Puis je crois qu'il y a un langage imagé, je crois que, OK, tu sais, bon. Mais quand le contexte l'indique, c'est littéral, les dispensationalistes, c'est-à-dire la systématisation de la révélation progressive de la parole. Les choses arrivent, puis là, on les catégorise en, bon, mais là, ça, ça donne une période, ça, ça, ça. Contrairement à un système qui, je crois, on est contraint d'imposer aux Écritures en allégorisant beaucoup les portions prophétiques de la parole de Dieu. Maintenant, il faut comprendre, pour situer le contexte ici, que toute cette conversation, qui, ben, conversation, c'est plus le discours de Jésus, a été provoquée par l'affirmation qu'on voit précédemment dans le chapitre 23, verset 38, quand Jésus dit que, au verset 38, « Votre maison sera laissée déserte. » Et là, ça a amené la question des disciples, puis ben, au verset 2, « Mais il leur dit, voyez-vous, tout cela, je vous dis en vérité, qu'il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qu'il ne soit renversé. » Et effectivement, c'est arrivé en 70 après Jésus-Christ, le temple a été complètement, puis c'est littéralement pierre sur pierre, ben, il y avait de l'or, puis là, les Romains, qui voulaient l'or, ont vraiment renversé chaque pierre pour aller chercher toute l'or qu'ils pouvaient aller trouver. Donc, c'est arrivé littéralement comme Jésus l'a dit. Et donc, c'est ça pour ça ici. Puis, il faut comprendre que la question des disciples, par contre, elle n'émane pas du même type de compréhension qu'on a du retour de Jésus. Nous, retour de Jésus, on pense, ah, Jésus va revenir. Pour eux autres, ils pensaient à... quand il va venir comme Messie pour établir son royaume, puis se débarrasser enfin des Romains. C'était ça qu'il avait dans la tête, eux autres. C'était ça qu'il avait dans la tête tout le long des évangiles. Mm-hmm. N'est-ce pas? Mm-hmm. Puis là, c'est là qu'on voit que, ouais, oui, il pas supposé d'aller sur une croix de même. Puis là, pour ça que Pierre, ça marchait pas dans sa tête. Puis voyons donc, là, tu peux pas, toi, mourir aux mains des impies. T'es le roi d'Israël. Il y avait comme des bouts du puzzle qui manquaient. Mais c'était la pensée la plus répandue chez les Juifs à l'époque. Et c'était très renforcé par le fait que le temple était impressionnant. Peut-être pas aussi impressionnant que le premier temple de Salomon, mais c'était impressionnant. C'était quand même une des merveilles du monde. D'une architecture, d'une splendeur. Oui, il y avait de l'or et tout ça. Puis ça symbolisait le règne de Dieu, sa suprématie. Donc c'était une fierté nationale. C'était le symbole de ce qui est donné dans le psaume 47, « Dieu règne sur les nations, Dieu a pour siège son saint trône. » Maintenant, OK, puis là, en passant, je vous amène un message, c'est une introduction, c'est un survol, c'est pas un message trois points, puis tout ça. En fait, je vais pas beaucoup traiter, je suis pas parti pour traiter Matthieu 24 de cette manière-là. Là, je vous donne des considérations préliminaires. Vous allez voir après ça quand on va considérer point par point aussi, mais bon. Une autre chose qui est importante de comprendre, c'est que tout ce qui est abordé dans Matthieu 24 est israélocentrique. C'est-à-dire que ces prophéties sont spécifiquement pour la nation d'Israël. Parce que oui, il y a un accomplissement partiel en 70 après Jésus-Christ avec l'empereur Tite qui a envahi Jérusalem, qui est un type de l'Antéchrist. Puis qu'avant, il y a des gens qui l'ont précédé, qui disaient « c'est moi le Christ, c'est moi le Christ ». On sait que ces choses-là, oui, c'est vrai, sont arrivées. Mais c'est des accomplissements partiels. Et pour rester cohérent et fidèle avec le texte et l'ensemble de la littérature prophétique de la Bible, force est d'admettre que le discours de Jésus-Christ réfère ici à plus que juste 70 après Jésus-Christ, mais va dans tout ce qui touche, entoure la nation d'Israël durant les temps de la tribulation de la 70e semaine de Daniel. Mm-hmm. Les sept années de la 70e semaine de Daniel. Puis, juste pour vous dire comment la spécificité ici. Regardez verset 16, juste rapidement, là. « Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit descende, ne descende pas pour prendre ce qui est dans la maison. » Il parle de la Judée, il parle à des Juifs, il parle de la, géographiquement cet endroit-là. C'est très spécifique à cet endroit géographique précis. Puis il y a d'autres spécificités qu'on va voir à travers notre étude, mais ça ne laisse pas d'ambiguïté au fait que c'est vraiment de la nation d'Israël dont il est question. Que Matthieu 24 est une prophétie touchant spécifiquement les signes et les événements touchant la nation d'Israël après l'enlèvement de l'Église. Je crois, encore, il y a peut-être qui feront ces sous, il y en a peut-être depuis tantôt qui bouche le banc, là. Pas grave, je veux dire, je vous dis ce que moi je crois. Et après l'enlèvement de l'Église, et ça l'abonde dans le sens, ça concorde parfaitement avec la révélation de l'Apocalypse. Apocalypse, les trois premiers chapitres, Église, Église, Église. Les lettres aux sept églises, vous remarquerez, à partir du chapitre 4, il n'y a plus zéro référence à l'Église, puis ça dit « après ces choses ». Il y a vraiment comme un time marker que ça dit à partir de là. Puis là, on voit vraiment des événements qui sont dépeints, qui ont rapport avec ce qu'on appelle la tribulation et la grande tribulation. Les sept années divisées en deux, trois et demi, chacun de la 70e semaine de Daniel. Donc, plus aucune référence. Et je pense que ce n'est pas par hasard. Matthieu 24 est israélo-centrique. Apocalypse à partir du chapitre 4 est israélo-centrique. Les Écritures sont claires et cohérentes. Ça va ensemble. Comme je disais, c'est ma conviction. C'est celle de l'Église officiellement. Mais ce n'est pas nécessairement tout le monde. C'est pas nécessairement tout le monde qui serait d'accord avec ça. Mais ce n'est pas grave. C'est ce que je vous partage. Maintenant, je veux soulever quelques points. Je veux soulever quelques points. Là, je vous ai donné la vue d'ensemble. Là, j'ai fini de piler sur des orteils. Je vais vous amener des points importants. Non, mais... Ben, piler sur des orteils, parce que vous n'êtes pas d'accord. C'est la vie, là, tu sais, je veux dire. Mais je vais vous dire qu'on... Je m'en viens à vous dire l'interprétation plus philosophique de tout ça, comme chrétien, comment... Les implications pratiques. OK? C'est-à-dire que... Je veux vous donner une vue d'ensemble, mettre les cartes sur table avec ce message-là, donner une explication de l'interprétation du texte, mais je veux terminer avec des implications spirituelles, OK? D'abord, je tiens à dire, et là-dessus, je sais que Nuck va être bien d'accord avec moi, puis je sais pourquoi il dit ça, je déplore le pessimisme qu'a engendré l'interprétation dispensationaliste pré-tribulationniste. Je savais. Prévisible, les gars. Mais écoutez bien. À ceci, je réponds. Non seulement ces gens-là ont une mauvaise eschatologie, parce que ces choses devraient nous consoler. Consolez-vous les uns les autres, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 18. Puis ça devrait produire en nous de l'espérance, un soupir après la délivrance, Romains 8. OK? Non seulement je pense que c'est une mauvaise eschatologie, mais aussi, surtout, c'est une mauvaise christologie. Parce que c'est une incompréhension et c'est une incrédulité par rapport au fait que Christ est roi maintenant. Amen. Qu'il règne sur les nations maintenant. Que c'est pas comme, plus tard, quand il va être sur terre, là, c'est là qu'il va commencer son règne. Mais non, ça fait toute partie de son règne. Puis maintenant, il règne sur toute sa création, puis aussi sur ses ennemis qu'il a exposés en spectacle à la croix. OK? Faut pas trop donner... En fait, faut donner zéro crédit à Satan. C'est un ennemi vaincu. Le dispensationaliste, pré-tribulationniste, des fois, a donné trop de crédit à l'ennemi, comme s'il était tellement gros, puis la grosse affaire, puis New World Order. C'est des choses que, oui, mais il faut donner le crédit où est le crédit. Je veux dire, ça, c'est juste Satan qui marche sur du temps emprunté pour essayer de faire des ravages avant que le roi dise « c'est fini ». Vous regardez les choses en perspective. Bon, première chose. Ah là, j'ai pilé sur d'autres sortes d'orteils. En passant à toutes choses, hein, c'est ça, Dieu permet toutes choses dans sa souveraineté pour l'accomplissement de son bien puis de son plan, et Dieu est capable de transformer le mal en bien. Maintenant, une autre chose qui est importante à dire quand on considère une étude comme celle-là qu'on commence, de Matthieu 24, je viens de vous dire que ma conviction de l'interprétation de Matthieu 24 est littérale, dispensationaliste, pré-tribulationniste, et je m'en excuse pas, mais c'est avec humilité, et en reconnaissant que l'eschatologie est un domaine d'étude biblique complexe, et que des frères bien-aimés peuvent différer à l'intérieur d'interprétations dispensationalistes et même d'un autre système théologique, pour ne pas nommer la théologie de l'Alliance. Et ce n'est pas considéré comme des hérétiques. Ce n'est pas comme si on les regarde pas comme des frères, mais on s'entend à ne pas s'entendre. C'est un des sujets comme calviniste arménien, comme l'organisation de l'Église. Frères chrétiens, presbytériens, baptistes. C'est pas tout pareil, là. Est-ce qu'on dit que les frères, c'est des hérétiques parce qu'ils n'ont pas de pasteur dans leurs églises? Je dis pas qu'on est obligé d'être d'accord. Mais c'est pas un point de dire qu'ils sont hérétiques puis on n'a pas de communion avec eux. Êtes-vous gêné de dire « Amen »?
Amen.
Non, mais c'est vrai, tu sais, je veux dire, historiquement, c'est ça. Tu sais, il faut juste remarquer avec humilité, on croit ça, puis c'est correct, mais on se bat pas avec les autres pour ça. Des fois, il y a eu de l'arrogance là-dessus. « Hey, nous, là, hey, on l'a, puis les autres, tu sais. » Je trouve que c'est un manque d'humilité, puis il y a eu ça, avec calviniste arménien, avec... Des fois, on est bon pour s'élever, puis se donner un piédestal, mais il faut prendre les choses avec humilité. C'est très correct d'être convaincu de ce en quoi on croit, mais garder les choses en perspective, qu'on n'est pas obligé de tirer des tomates à ceux qui ne croient pas comme nous autres sur ces choses-là. Amen?
Amen.
Bon. Maintenant, une autre chose à dire, ce sujet se prête souvent, le sujet là, de l'eschatologie et tout ça, se prête souvent à des dérives eschatologiques, où des gens arrivent à des spéculations inédites, circonstancielles et parfois même farfelues, qui ne passent pas le test du temps. Tu sais, dans les années 80, là, c'était toute l'URSS, puis là, l'ours qui mange les côtes là, dans Daniel, puis là, c'est les Russes, puis faut faire attention. L'an 2000, puis là, tu sais, c'est ça. Tu sais, c'est un domaine qui est fertile en spéculation, puis tout ça. Il faut vraiment prendre les choses avec humilité, puis aussi, y aller avec ce qui est certain, puis le reste, laisser les choses qui ne sont pas si claires, s'ils ne sont pas claires. Voilà pourquoi il faut toujours rester fidèle aux Écritures et pas prendre notre eschatologie dans le journal local du matin, puis garder l'attitude humble qui reconnaît qu'on n'a pas tout compris. Puis qu'on n'est pas à de tout expliquer. OK? Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce que ça dit dans Proverbes, au chapitre 25 et le verset 2? Ça dit « La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. » Dieu a des choses qu'il a laissées cachées, puis on ne les comprend pas toutes. C'est correct. Il garde sa gloire de même pour que lui soit celui qui reste, celui qui est adoré. Pas « Ah, lui, il a toutes les réponses, puis il est donc bon, puis il est donc beau, puis non. » Et en passant, c'est un piège de faire de l'eschatologie une fin en tant que telle et non pas Jésus-Christ. Ça a été aussi un piège, ça, pas mal des années 80. Ben, et après aussi, là. Puis, il y a des pièges sous différentes formes aussi. Avoir une théologie strictement intellectuelle, puis des grandes connaissances, mais dépourvues de vie. Mm-hmm. Ou avoir des expériences, puis chercher l'expérience ultime, puis tout ça. Je veux dire, le but de la vie chrétienne, c'est Jésus-Christ. Il faut faire attention à ce qui nous dit, qui nous fait diverger, merci, de ça. Et Dieu n'est pas intéressé tant à nous donner toutes les bonnes réponses que de nous amener au point, comme Paul, après Romains 9, 10, 11, à dire « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. » Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen.
Amen.
Et vous connaissez Deutéronome 29-29? Tiens, capable de me dire par cœur, celle-là? Il y a toutes des paroles, tu sais, Matthieu 23-23, on s'en rappelle. 29-29, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous, à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. C'est-à-dire, afin que nous mettions en pratique. Dieu nous révèle les choses qu'on a besoin de savoir. Et les choses qu'on ne peut pas tout comprendre, qui sont cachées, c'est parce qu'on n'a pas besoin pour mettre en pratique la parole. Qu'on fasse attention à ne pas se tromper par des faux raisonnements en pensant que si j'ai l'explication énigmatique à ça, que j'ai la clé de la vie chrétienne, il y a bien d'autres affaires qui passent avant que dans ta vie, avec tes enfants, avec ta famille, que tu peux t'occuper, que même si tu ne sais pas la septième clé de, tu sais, il n'y a peut-être pas des clés, peut-être pas le septième seau, mettons. Pas clé, ça n'a pas rapport, clé, mais seau. Je ne voudrais pas être saut en parlant de clé. Sylvain sort de ce corps. OK. Dieu ne nous a pas donné des paroles, ces paroles prophétiques pour nous divertir ou pour qu'on se pète les bretelles, pour montrer comment on est meilleur que les autres. Mais il les a donnés pour nous révéler qu'il est le Dieu souverain et omniscient qui règne. C'est pas pour nous, là. On n'est pas le centre de l'univers, là. C'est Dieu avec ça qui se révèle lui-même quelque chose sur lui. Et c'est ça le but des prophéties. Parce que si le fait de l'étude de la prophétie nous rend orgueilleux, c'est parce qu'on a passé à côté du but de la prophétie. Je vous dis là-dessus, Ésaïe 42. Je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici, les premières choses sont accomplies et je vous en annonce des nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. N'oublions jamais que Dieu veut qu'on se rappelle toujours qu'il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil en face de l'Éternel. C'est lui qui connaît toutes choses. Il nous en révèle. On peut mettre des affaires ensemble. Mais ultimement, c'est lui le seul sage. À Dieu seul sage. Et n'oublions pas aussi que la connaissance enfle, mais que l'amour édifie. Que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Puis je veux terminer avec l'exemple de Job. Job et ses amis, là, vous savez, ils n'ont jamais eu toutes les réponses. Ils n'ont pas eu toutes les réponses à ce qui est arrivé. Là. Nous, on a le beau rôle, on voit ça bien après, puis on sait tout ce qui s'est passé, mais les autres, il y a bien d'affaires qu'ils n'ont pas vu, là, qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas eu toutes les réponses à leurs questions, mais ils ont eu une nouvelle révélation de qui Dieu est. Et c'est ça qui est le plus important. Le but de la prophétie, ce n'est pas d'avoir toutes les réponses, c'est d'avoir une nouvelle révélation de qui Dieu est. Et dans Matthieu désire nous présenter Christ comme le roi, comme celui qui règne, comme celui qui est venu établir son royaume, qui doit être craint, qui doit être obéi. Et c'est vraiment ce qu'on doit garder central lorsqu'on étudie un passage comme Matthieu 24. Je trouvais ça important de vous partager ça parce que c'est l'esprit dans lequel on approche ces choses. Parce que des fois, on peut approcher ces choses avec une arrogance, cockiness. Moi, je vais vous donner les réponses ici. Il faut rester humble. On peut être convaincu. Moi, je vous dis, je suis convaincu de ce que je crois, mais avec tout ce que je vous ai apporté là. C'est dans cet esprit-là qu'on va le regarder ensemble. Et ce dont on a besoin spécialement en ces moments difficiles et troubles, c'est pas d'avoir toutes les réponses. C'est d'avoir une révélation de celui qui est la réponse.
Amen.
Plus que jamais. Merci Seigneur. C'est bon de ramener nos cœurs là où ils doivent être devant toi. Seigneur, ta parole n'est pas comme une émission de télé spectaculaire, un film de science-fiction. Ta parole est la révélation de qui tu es. Et tu es tellement grand, tu connais toutes choses. Et oui, tu nous révèles des choses sur l'avenir, mais tu te révèles, toi, dans l'avenir. Seigneur, que rien nous fasse bifurquer les yeux de Christ, que ce soit dans le passé, dans le présent ou dans l'avenir. C'est lui qui a la prééminence. C'est lui le roi. C'est lui qui règne. On te remercie pour ça, Seigneur. Merci de remettre les choses en perspective dans nos vies. Et merci, Seigneur, pour ta parole qui est digne de toute notre confiance. Et merci que ces choses sont données pour notre édification. Et Seigneur, c'est ce qu'on veut faire. On veut approcher ta parole humblement afin d'y trouver l'édification pour nos cœurs. Merci encore pour ta parole, pour le fait que on peut se reposer dans ces vérités bénies du fait que tu es le Dieu qui connaît tout et qu'on n'a rien à s'en faire parce que tu es le roi, tu règnes. On te prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen.